Et au programme de ce lundi 30 novembre, après les attentats, la société se donne-t-elle les moyens de comprendre? C'est la question que nous allons poser à 18h20 dans Du Grain à Moudre. Le CNRS vient de lancer un appel à la communauté scientifique. Aidez-nous à comprendre les phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui au sein de la société française et qui conduisent certains jeunes à se radicaliser à l'extrême. Un appel qui sonne comme un aveu. Nous n'aurions pas les moyens de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors nous en discuterons avec Olivier Roy, Martine Herzog-Evans, Patrice Bourdelet et Karim Baouz. À 18h, ce sera le journal de la rédaction présenté par Tarach Leguel. À 17h55, les carnets d'économie de Dominique Rousset. Elle sera en compagnie toute cette semaine de l'économiste Frédéric Gilly. Il est chercheur associé au Centre d'études européennes de Sciences Po. Ils parleront des élections régionales. Et tout de suite, sur les docks, avec vous, Irène, le programme de la semaine.
Eh bien, le programme de la semaine, en fait, comme une bonne partie des Français, nous sommes focalisés sur la COP21 avec l'espérance de réel changement de cap pour la planète. Alors cette semaine, nous allons consacrer 3 documentaires à l'environnement. Mercredi à la COP21, tel que les étudiants l'ont joué à Sciences Po en mai dernier. Mardi à l'irruption des yourtes et autres maisons légères. Aujourd'hui, aux enjeux et imaginaires de l'air. Quant à jeudi, nous suivrons Aurélia Balboni dans l'accompagnement de sa mère pour qui les mots ne veulent plus rien dire.
Aujourd'hui donc, départ pour l'Exploradôme de Vitry-sur-Seine.
Oui Hervé, donc en écho à la COP21, ce musée scientifique inaugure une exposition qui est qualifiée de citoyenne, ludique et participative sur le thème de l'air et se tiendra jusqu'en 2017. Là est né ce Sur les docks où Estelle Gap nous propose de vivre certains des mystères de l'air.
Demain, je vais faire cette conférence, je vais parler de l'effet de serre. Demain, ce sera très important, demain, c'est sérieux, je dirai demain, l'effet de serre a permis l'apparition de la vie dans les océans. Sans effet de serre, pas de vie. Voilà ce que je dirai demain. Ce qui est mauvais, c'est l'intensification de l'effet de serre. L'intensification de l'effet de serre, c'est le dioxyde de carbone, c'est la révolution industrielle. Le réchauffement climatique est inéluctable parce que l'intensification de l'effet de serre est irréversible. C'est ce que j'irai demain, à la conférence de demain. L'intensification de l'effet de serre est irréversible. La capacité des forêts et des océans à fixer le CO2 n'est pas modifiable. Voilà, ce qu'il faut, c'est plus de CO2. En finir avec la combustion, en finir avec la croissance, les États sont des menteurs. Les pouvoirs sont des menteurs, les gouvernements sont des menteurs parce que aucun État, aucun pouvoir, aucun gouvernement ne veut abandonner le système de développement adopté depuis la révolution industrielle. C'est ce que je dirai demain.
Ce cri d'alarme est celui d'un homme de théâtre. Frédéric Ferrer, géographe de formation. « Demain, c'est sérieux », écrivait-il en 2008. « Demain, nous y sommes. Il est peut-être déjà trop tard. Sommes-nous tentés de répondre, tant l'inquiétude n'a cessé d'augmenter autour de la question du climat. Pollution, réchauffement global, dérèglement climatique, est-il encore temps d'agir quand la dégradation de l'atmosphère semble irréversible ? En décembre 2015, pendant les 3 semaines de la COP21, l'air, cette substance invisible qui nous entoure et nous fait vivre, occupe le devant de la scène scientifique et politique.
Sur 1 million de litres d'air, c'est-à-dire dans un cube de 100 mètres de côté, on trouve les quantités suivantes. 780 840 litres d'azote, 209 460 litres d'oxygène, 9 340 litres d'argon, 18 litres de néon, 5 litres d'hélium, 1 litre de krypton.
L'air, enjeu et imaginaire. Un documentaire d'Estelle Gap et d'Ifi Mariani.
On trouve également dans l'air des corps dont la quantité est variable et qui, à divers titres,
au cœur du débat sur les stratégies énergétiques et leurs effets sur la santé publique, l'air est le nouveau champ de bataille où se joue à la fois l'avenir écologique de la planète et l'équilibre géopolitique des populations.
Par suite de vie.
Au centre des négociations économiques entre les États, il est devenu source de conflits entre les pays historiquement responsables de la pollution et les pays émergents. Car l'air est une ressource vitale pour tous. En 2005, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît le fait de respirer de l'air pur comme une condition essentielle au bien-être de l'homme. Tandis que la pollution entraîne chaque année 2 millions de décès prématurés dans le monde, faudra-t-il un jour défendre l'accès à l'air respirable comme l'un des droits fondamentaux de l'homme ? Oui. Tant l'air est d'abord ce qui nous fait vivre. Il est ce composé chimique auquel on doit l'alchimie de la vie.
Ce que c'est que l'air, d'abord c'est l'air qu'on respire, je pense. Donc c'est la vie, quelque part. C'est l'air qui transporte des tas de choses, des odeurs, des sons. C'est des contrastes lumineux aussi, qui vont changer les images ou la lumière qu'on va pouvoir voir, les couleurs. Et je pense que c'est avant tout l'air qu'on respire pour moi. C'est peut-être aussi un sentiment de liberté. Voilà, c'est quelque chose qui est impalpable et qu'on ne peut pas s'accaparer, qui est presque intemporel quelque part aussi.
Pour les chercheurs en sciences du climat, il s'agit d'abord de quantifier le problème, de l'appréhender par des données rigoureuses, afin de rendre visible par les chiffres un phénomène par nature invisible. Traquer, donc, comme une aiguille dans une botte de foin, les traces infinitésimales des polluants de l'atmosphère. Telle est l'exigence d'intégrité qui caractérise le travail minutieux d'un ingénieur, Marc Delmotte, climatologue, spécialiste de la mesure des gaz à effet de serre.
Je dis souvent pour plaisanter qu'en fait, quand on me demande ce que je fais, je réponds « je brasse de l'air ». Ce qui est un peu vrai. On essaye de comprendre comment tout ça fonctionne et de comprendre ce qu'il y a derrière ce petit mot avec trois lettres qui en fait a une implication très forte sur tout l'environnement et tout le système climatique.
Plateau de Saclay, octobre 2015.
Donc là, vous êtes au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc c'est ce qu'on appelle l'unité mixte de recherche. On est chargé de mesurer un certain nombre d'éléments qui sont constitutifs de l'atmosphère. Donc pour ça, on va installer des stations de mesure à différents endroits de la France ou de la planète. On va récupérer les données, on va les contrôler pour comprendre l'évolution de l'atmosphère et son impact sur le climat indirectement.
Du pic du Midi à la Russie, de l'Irlande à la Côte d'Ivoire, en passant par l'île Amsterdam et l'Inde, les porteurs de flacons du CNRS arpentent la Terre et rapporte des prélèvements d'air des quatre coins du globe.
Alors c'est un flacon en verre qui a deux robinets, deux entrées. En fait, l'idée, c'est qu'on va faire passer l'air d'un côté, il va ressortir de l'autre. Il y a une pompe qui va faire passer l'air à travers le flacon. Ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Et puis au bout d'un moment, on va fermer une vanne et on va pressuriser le flacon de manière à ce qu'on ait à peu près un bar 6, un bar 7 à l'intérieur du flacon. Et ensuite, on va les fermer et ils vont rester comme ça, fermés jusqu'à ce qu'ils reviennent au laboratoire et qui soit analysé sur les instruments. Donc en l'occurrence, nous, on a toujours mesuré le CO2, le méthane, le N2O, le SF6, le CO et l'hydrogène. Donc au départ, les flacons ils vont être stockés dans les armoires là, en attendant d'être analysés, puis ils vont passer sur un premier instrument, un chromatographe en phase gazeuse. Donc c'est un instrument qui va permettre de mesurer les concentrations des gaz à effet de serre. Puis ensuite, ils passent sur le deuxième instrument, le spectromètre de masse, qui lui va permettre de mesurer ces fameux isotopes, là, donc cette composition chimique du carbone et de l'oxygène. Et ensuite, avant de les renvoyer sur les sites, la dernière étape, c'est on va fermer le vide et puis on va les remplir avec de l'air sec. Et là, ils vont être prêts à être expédiés.
Pour les chercheurs du laboratoire de Saclay, ces flacons voyageurs permettent de mesurer le bruit de fond de l'atmosphère, c'est-à-dire la composition de l'air la plus naturelle possible, loin de toute source de pollution. Mais aussi d'observer la dispersion des polluants à l'échelle mondiale. Ces données en prise directe permettent d'établir un inventaire précis de la qualité de l'air, résultats qui sont ensuite mis à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique dans un souci de collaboration internationale qui s'est développé au cours des 15 dernières années.
les mesures directes dans l'atmosphère, elles ne sont pas si vieilles que ça. En fait, ça a démarré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, en 1949. Et la première station de mesure directe dans l'atmosphère a été mise en place à Mauna Loa, dans les îles d'Hawaï, par les Américains, qui ont pour la première fois mesuré directement l'évolution et la concentration dans l'atmosphère en direct. Ils ont découvert qu'il y avait des variations, que d'abord le CO2 augmentait, qu'il y avait des variations saisonnières, etc. Et donc évidemment, les questions qu'on s'est posées, c'est qu'est-ce que veut dire cette augmentation? Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est pas naturel? Comment on explique ces variations saisonnières, etc. Et donc petit à petit, différents pays sont impliqués, et des stations de mesure ont vu le jour un peu partout sur la planète. Au niveau européen, en fait, il y a encore une quinzaine d'années, chaque pays avait ses stations qui lui étaient propres, avait sa propre méthode de mesure, son propre équipement et son propre protocole de traitement. Donc initialement, chacun avait en gros sa propre expertise. Et l'idée, c'est que pour essayer d'avoir une plus petite incertitude sur les mesures et avoir quelque chose de plus homogène, on a essayé de créer ce réseau commun. Et donc l'idée, c'est d'avoir des mesures à la fois très précises et relativement bien harmonisées. D'abord parce que ce qu'on émet, c'est des gaz, et que les gaz, leur propriété, c'est de prendre tout le volume et tout l'espace qu'ils ont à disposition. Donc ils vont avoir tendance à se mélanger dans toute l'atmosphère. Et l'atmosphère, c'est quelque chose qui est mouvant, donc c'est brassé par les vents. Donc la pollution qui est mise en un endroit, elle ne va pas rester. D'ici 2-3 jours, elle peut se retrouver au-dessus de Pékin, et puis après passer dans l'hémisphère sud, etc. Et globalement, au bout d'un moment, la pollution, elle s'homogénéise quand même sur l'ensemble de la planète. Donc c'est pour ça que c'est toute la difficulté à mettre en place des quotas d'émission ou à imposer à certains pays de polluer moins ou des choses comme ça, c'est qu'en gros, c'est un problème qui est global. Il n'est pas limité à un seul pays. Si demain, la France décide unilatéralement de plus émettre, c'est bien, mais ça ne va pas suffire parce que la pollution qui sera émise par les Allemands ou par les Chinois ou par les Indiens viendra toujours au-dessus de la France. Et à l'inverse, ce que nous, on va avoir fait, ça va contribuer, mais ça ne va pas être beaucoup parce qu'on est petit là-dessus. Après, on peut discuter d'autres aspects, parce qu'il y a des aspects moraux et sociaux qui font que les pays industrialisés ont été les premiers émetteurs et que le niveau qu'on a atteint aujourd'hui est très largement lié aux impacts de ces pays-là. Mais des pays comme la Chine, comme l'Inde ou comme le Brésil qui sont en pleine expansion maintenant contribuent de manière importante. Le premier émetteur aujourd'hui, c'est la Chine, ce ne sont plus les États-Unis. Mais après, il faut ramener ça sur leur population, sur si on regarde par la quantité d'émissions de polluants par habitant, la Chine est encore loin derrière les pays européens ou les États-Unis. Par contre, en globalité, les quantités d'émissions qu'ils produisent sont plus importantes que ce qu'on produit en Europe ou ce qu'on produit aux États-Unis aujourd'hui. Mais effectivement, il faut prendre en compte le fait que, c'est par exemple les Chinois qui vont produire les choses, mais c'est nous qui allons l'acheter. Éventuellement, on leur envoie la matière première, elle revient sous forme de produit fini. Donc ça, c'est une vraie problématique qui est plus d'un niveau politique, je pense.
Après le protocole de Kyoto qui prendra fin en 2020, il est urgent de trouver un accord universel sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre qui accélèrent le réchauffement. Parmi eux, en ligne de mire, le CO2, le fameux dioxyde de carbone, principal polluant issu de l'utilisation des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz.
Là, on est dans un laboratoire qui a été climatisé spécifiquement. Donc, en fait, on a un plafond diffusant pour avoir une régulation de température qui soit très précise. C'est-à-dire qu'en gros, on ne veut pas de variation de plus de 1 degré, de 0,1 degré par heure. Donc, ces instruments sont reliés tous derrière à des gaz de calibration qui sont stockés dans le petit module que vous voyez derrière. Donc là, on a les gaz qui vont permettre de calibrer les instruments, donc de les étalonner. À l'intérieur de cette bouteille, vous avez de l'air comprimé qui contient du CO2, du méthane, du CO, du N2O, enfin les espèces qui nous intéressent et dont on connaît parfaitement les concentrations. Les mesures, ensuite, c'est ça qui vont être utilisées pour savoir comment les concentrations évoluent d'un endroit à l'autre et pour donner la valeur globale de l'atmosphère. Et ensuite, elles vont être utilisées pour faire des bilans de carbone. Donc en gros, les instruments, ils font une mesure toutes les secondes ou toutes les 2 secondes et on les voit en direct sur l'écran. Il y a 402 molécules de parties par million de CO2 dans l'atmosphère en ce moment au-dessus du laboratoire. Typiquement, si vous prenez cette valeur-là, 400, les valeurs qu'on atteint aujourd'hui dans l'atmosphère sont des valeurs qu'on n'a jamais connues depuis 800 000 ans. Parce qu'on est capable de reconstituer les variations passées de l'atmosphère en allant mesurer les concentrations de gaz à effet de serre dans les bulles d'air des carottes polaires. Donc on va aller faire des prélèvements dans les zones froides Donc typiquement au Groenland ou en Antarctique, vous allez remonter des carottes. Dans ces carottes, l'air qui va être piégé sous forme de petites bulles, on peut l'analyser et on peut savoir comme ça au cours du temps comment ça a évolué. Et donc ce qu'on peut montrer, c'est que le climat de la Terre au cours des 800 000 dernières années, un peu plus longtemps, il a varié entre des climats glaciaires et interglaciaires, donc des périodes très froides et des périodes comme celle d'aujourd'hui qui sont des périodes interglaciaires. Et ben, les gaz à effet de serre, le méthane et le CO2, ils ont varié de manière identique, c'est-à-dire qu'on a toujours des valeurs plus basses de CO2 ou de méthane pendant les périodes froides et plus élevées pendant les périodes chaudes. Sauf que la différence majeure entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'en gros, sur les 800 000 dernières années, si on prend l'exemple du CO2, il faut à peu près 15 000 ans pour passer d'un niveau à un autre de manière naturelle, sauf que là, on l'a fait sur une échelle temporelle qui est de 150 ans. Et c'est complètement concomitant avec le début de l'industrialisation et l'utilisation des combustibles fossiles que sont essentiellement le charbon, le gaz et le pétrole. Aujourd'hui, on vient de voir, on est à 400 ppm. Donc on est dans des valeurs qui n'ont jamais été connues dans un climat entre guillemets naturel. Et donc ça, c'est directement imputable aux activités humaines. On produit plus de 10 milliards de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère avec nos activités. Ça produit un surplus de gaz à effet de serre qui, lui, va entraîner un réchauffement supplémentaire de l'atmosphère.
À l'ouest, le ciel est un enfer rouge-orange, entouré de tourbillons de nuages, de l'ébène le plus noir. L'air empeste déjà l'odeur du gaz brûlé. Ce n'est pas un simple incendie. Dans cet environnement clos et pollué, c'est un cataclysme. Un sourire vint brusquement illuminer le visage du vieux Sam. L'air des pneus. Utilisons l'air des pneus comme des bouteilles de plongée. Hé, vous deux, grouillez-vous ! Del Barbara se tourna vers Julia. Si nous traînons, ce sera trop tard. Nous allons manquer d'air respirable. Alors ils coururent, main dans la main, en direction des véhicules. Del Barbara creva un pneu avec son couteau de poche et entendit siffler l'air dès qu'il eut retiré la lame. Il sentit un flux divin d'air sur son visage. À l'aide d'un petit tube de plastique, il respira à fond une fois, puis il tendit à Julia le pneu d'où dépassait le tube noir. Elle respira, les joues creusées par l'effort. Des larmes coulaient sur ses joues, laissant des traces plus claires dans la suie qui la barbouillait. Dale Barbara pleurait lui aussi. Cela n'avait rien à voir avec l'émotion. Il avait l'impression d'être pris dans la plus acide des pluies acides. Assourdi, comme lui provenant d'un autre monde, il entendait Sam tousser sans s'arrêter. « Il va se déchirer en deux », pensa Dale Barbara. Il avait lui-même l'impression qu'il allait se déchirer en deux s'il ne respirait pas rapidement. Et lorsque Julia repoussa le pneu vers lui, il se jeta sur la paille improvisée, inspira profondément ce merveilleux air à goût de poussière. La deuxième bouffée d'air fut meilleure, la troisième encore meilleure, et la quatrième, un don de Dieu.
En gros, l'alerte, c'est l'alerte globale. C'est-à-dire que oui, l'alerte, elle est depuis des années en disant attention, les gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter et ça va changer le climat de la Terre. Après, je ne sais pas si elle est forcément bien écoutée ou pas. Ça, c'est un autre problème qui est à un autre niveau que le nôtre. Mais disons que, à la limite, c'est un peu ça notre problème aussi. C'est-à-dire que ça, si c'était dangereux, on aurait peut-être tendance à agir beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement sur ce genre de choses. Et là, comme c'est un danger qui est à long terme, on va dire, c'est plus difficile de faire changer les choses. Et puis ça, c'est aussi difficile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas non plus sous la main une source d'énergie qui va permettre de remplacer demain le charbon, le pétrole et le gaz facilement à des coûts équivalents aussi. Parce que c'est ça qu'il faut garder en mémoire, c'est que derrière et tout ça, il y a des aspects socio-économiques qui sont loin d'être négligeables. Moi, mes espoirs, ça serait qu'on prenne vraiment des décisions fermes et qu'on essaye d'agir. Je vais vous donner mon sentiment de citoyen, cette fois-ci, et pas forcément de scientifique, mais il y a une vraie volonté d'essayer de faire quelque chose, mais qui, à mon sens, ne s'est pas encore concrétisé dans les actes. Il y a plein de choses qui se font à l'échelle des aides d'associations, de communes, de départements, à l'échelle, je dirais, j'aurais tendance à dire à l'échelle humaine, mais si à un moment on fédère pas tout et qu'on fait pas quelque chose de vraiment fort, ça risque de rester un petit peu sans lendemain, quoi.
Il faut promouvoir et renforcer la protection de l'atmosphère. Les chefs d'État et de gouvernement de 24 pays ont signé cet après-midi à La Haye une déclaration pour défendre l'environnement de la planète menacée de plus en plus par les déchets industriels. Il faut faire vite, a déclaré le président Mitterrand.
Le temps nous est trop compté pour que nous puissions le prendre à loisir. Les conditions nous semblent réunies pour que chacun accepte l'idée d'une autorité mondiale qui, moyennant des garanties nécessaires, soit un jour mandataire de tous dans l'intérêt de tous.
Il est urgent d'agir. François Mitterrand, La Haye, 1989.
Devant l'enjeu, s'inclineront, je le souhaite, les dogmatiques.
L'air et l'eau commencent à faire défaut. Georges Pompidou, Chicago, 1970.
Dénoncer, c'est bien. Condamné, c'est mieux.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Jacques Chirac, Johannesburg, 2002.
Quelles sont les missions principales que cette autorité que j'attends...
Le temps de l'action est venu. Nicolas Sarkozy, Grenelle de l'environnement, 2007. Tout se passe comme si, face à la question du climat, nous étions pris dans une sorte de temporalité saisie d'effroi. Que vaut le temps humain de la décision politique face au temps géologique? Que vaut un pic de pollution au regard d'un cycle climatique de 800 000 ans? La grande difficulté d'agir à laquelle nous nous heurtons aujourd'hui s'explique peut-être par ce vertige, créé par de multiples temporalités qui ne parviennent pas à se rencontrer. Si le temps de la science dépasse l'humain, le temps des lobbies industriels écrase l'homme sous l'urgence des profits. Entre les deux, l'opinion publique avance lentement. 1850, début de la révolution industrielle. 70 ans plus tard, 1920, prise de conscience des effets nocifs de la révolution industrielle. 30 ans plus tard, 1949, calcul direct dans l'atmosphère des polluants issus de la révolution industrielle. 10 ans plus tard, 1960, évocation du phénomène de réchauffement climatique comme conséquence de la révolution industrielle.
Alors on se trouve au pied de la Tour Eiffel, près d'une station d'Air Paris, qui prend la mesure de l'air, et on va rejoindre une autre station qui se situe au sommet. Alors sur cette station, on mesure spécifiquement les NOx, c'est-à-dire les oxydes d'azote, qui nous permettent ensuite de mesurer tout ce qui est monoxyde d'azote et dioxyde d'azote, qui sont principalement émis par les gaz, par les voitures. Et là, on va aller tout en haut de la Tour Eiffel, donc au troisième étage, à 321 mètres du sol.
Bonjour.
Le prochain, s'il vous plaît, next one, stop. Attention avec la peur, merci.
Et vous remarquez qu'on a un ciel dégagé également. Alors, la pollution n'est pas toujours visible, mais néanmoins, là, on a a priori un air de bonne qualité vu que le vent est quand même présent. Dès que vous avez ce qu'on appelle des pollutions dispersives, ça va être de la pluie, du vent. Ce sont des critères qui vont favoriser la dispersion des polluants.
Créée en 1979, Air Parif est une association qui s'est spécialisée dans la surveillance de la qualité de l'air. Dotée d'un réseau de 70 stations de mesure installées à Paris et en proche banlieue, elle remplit un double rôle d'observation et d'alerte.
Juste derrière.
Contrairement aux gaz à effet de serre qui ont des conséquences planétaires sur le climat, Air Parif contrôle quotidiennement la pollution locale de l'air, qui a un effet direct sur la santé de près de 3 millions de franciliens. Ces appareils mesurent trois polluants principaux, l'ozone, l'oxyde d'azote et les particules. À 300 mètres de hauteur, une de ces machines permet de mesurer le taux de propagation des polluants dans l'atmosphère. Pierre-Emmanuel Berg.
Dans le jargon technique, on appelle ça une tête de prélèvement, puisqu'elle est dévolue à un certain type de polluant. C'est une pomme de douche, de laquelle part un petit tube en plastique, en fait, hein, qui permet de prélever l'air. Vous avez une armoire avec des racks dans lesquels sont incorporées des machines avec des petites poignées. Vous avez un écran digital dessus qui nous permet de voir la mesure en direct, puisque les mesures sont envoyées tous les quarts d'heure au centre d'Airparif. Alors effectivement, on a des progrès certains. Par exemple, on a des polluants qui ont complètement disparu dû à des volontés politiques. Le plomb, par exemple, qui a été supprimé de l'essence. Le benzène aussi, qui n'est quasiment plus un problème aujourd'hui, alors qu'il y a encore 20 ans, on avait des niveaux qui pouvaient être dangereux. Et on note aussi depuis, on a des études assez fines, hein, et depuis une quinzaine d'années à Paris, depuis une dizaine d'années, en émission, pas en concentration forcément, mais en émission en tous les cas, on a réduit de presque 30% nos émissions d'oxyde d'azote et de particules en l'espace de 10 ans, ce qui est quand même important. Alors, de la même manière qu'il ne faut pas céder au catastrophisme, il ne faut pas non plus céder trop à la victoire rapide, parce que même si aujourd'hui les niveaux baissent et qu'on a des progrès certains qui sont enregistrés et que nous, on voit dans nos études, on a quand même des niveaux pour les particules et les oxydes d'azote qui dépassent les seuils réglementaires pour presque encore 3 millions de personnes en Ile-de-France, par exemple, qui nous vaut aussi d'ailleurs une mise en demeure de l'Union européenne. Donc si on met tout ça bout à bout, on se rend compte que le problème est loin d'être réglé.
Ces chiffres, est-ce qu'ils sont alarmants ou plutôt bons là aujourd'hui ?
Tu peux les mettre en concentration en microgrammes par mètre cube. Parce qu'en fait, ça, c'est des parties par milliard. En fait, il y a des seuils de conversion, mais de tête, c'est un peu compliqué à faire. Et les seuils réglementaires, donc, qui sont connus au public, les mesures se font en microgrammes par mètre cube, en fait. En gros, là, ça correspond à 26 microgrammes par mètre cube. Le niveau annuel réglementaire, c'est 40 microgrammes par mètre cube.
Donc,
oui, aujourd'hui, là, c'est un chiffre tout à fait correct. Ça, on le sait en idée, c'est juste que... Dans les métiers scientifiques, on aime bien la précision.
Alors, je connais moins que le dioxyde d'azote, là, oui. Donc il y a 14. Au-dessus, c'est quoi ?
Oxyde d'azote. Et ça, c'est le monoxyde d'azote. On trouve le NO2 en soustrayant des NOx, le NO. C'est-à-dire en soustrayant des oxydes d'azote, le monoxyde d'azote.
Plein de perturbations.
Ah
quoi
bon
ouais. Ah mais là, vous avez tous les relais TDF de gendarmerie.
Ah ouais, laisse tomber le son là. Regarde, c'est drôle.
On dirait de l'eau qui coule.
C'est incroyable, bien sûr, ouais, vas-y, écoute les interférences quoi.
C'est une douche d'onde.
Ah ouais.
C'est fou.
Ah c'est incroyable. Je pense sincèrement que sur le haut de la tour Eiffel, vous avez quand même tous les relais de télé de gendarmerie.
Parmi la foule de touristes qui fréquentent la tour Eiffel, on dirait que le langage des chiffres résonne comme une langue étrangère, intraduisible pour qui n'en détient pas les codes.
C'est l'endroit de France où il y a le plus d'ondes qui sont émises.
Comment lire, interpréter ces résultats dont dépend notre santé au quotidien ? Antennes radio, relais téléphoniques, appareils de défense militaire. On imagine une avalanche de composés chimiques dans l'air qui réveille l'inquiétude face à la menace invisible. Que retenir de ces données mathématiques censées rationaliser la peur devant un danger impalpable ? Du haut de la tour Eiffel, le discours scientifique est comme pris de vertige. La langue des chiffres semble impuissante face à une matière qui lui échappe. Comment, dès lors, tenter d'approcher et d'apprivoiser l'air si ce n'est par l'art ? La référence à l'art, si elle paraît incongrue ici, permet peut-être de sortir de l'effroi pour tenter de saisir quelque chose de cette réalité intangible. Pollution, changement climatique, en quittant le registre anxiogène, les artistes nous offrent la possibilité de dire, de penser l'air autrement.
Voilà, donc c'est juste un bout de tuyau droit, non percé, avec au bout un bouchon et donc un sifflet type flûte à bec. Sauf que ça se joue juste avec la pression du souffle. C'est-à-dire que là, juste en le mettant dans la bouche et en soufflant plus ou moins fort... Et en bouchant l'extrémité, je vais pouvoir changer des notes. Si je réessaye de jouer le genre de rythmique... Là, j'ai une flûte qui est reliée à une bouteille de shampoing, directement. Et donc, en fait, là, au lieu de souffler, juste en appuyant sur la bouteille, ça envoie de l'air dans la flûte. Donc, en fait, là, moi, je suis juste une source d'air. C'est-à-dire que, bah, par exemple, sur ce genre de choses. Donc, moi, si je veux jouer comme une bouteille de shampoing, je vais faire... Mais après, bah, forcément, avec mon souffle, je vais pouvoir gérer l'intensité, le vibrato, toutes les attaques. En version flûte à bec, il suffit donc d'alimenter en air. On peut être vraiment dans un rapport assez brut, assez percussif, assez direct avec les notes. Et c'est vrai que bah, c'est comme ça que je suis venu aux flûtes harmoniques. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à y faire quelques trous, à faire des essais. Et puis...
La musique n'existerait pas sans l'air qui assure la propagation des sons. Dans la famille des instruments à vent, en particulier, le musicien utilise l'air comme ressource créatrice. L'air n'est plus ce qui menace l'humain, il fait corps avec l'homme. Il est le prolongement de son propre souffle. Il est ce qu'il respire et ce qu'il inspire. Nicolas Bras est un artiste d'une espèce rare. Musicien bricoleur, il conçoit et fabrique ses propres instruments à partir de matériaux de récupération. Passionné par les tablas indiens et les instruments traditionnels du monde entier, il s'amuse à reproduire leur sonorité en créant des monstres. Objets insolites, fait d'étranges boutures de tuyaux de PVC gris. Lui qui pratique la flûte en percussionniste, il aime qualifier ses inventions de musique de nulle part, car la musique, selon lui, est sans origine fixe.
L'instrument à vent, c'est juste un récipient avec de l'air dedans, et donc du coup, l'objet, en fait, il y est pour pas grand-chose dans le son. Et c'est vrai que ça, du coup, ça permet une liberté quasiment absolue. On a la famille des embouchures, on a la famille des biseaux, et on a la famille des anges battantes. Et donc, effectivement, à partir du moment où on sait que cet instrument-là, bah, c'est de la famille des biseaux type embouchure latérale, et ben bah, voilà, on est sur la forme et on est sur le contenu. On voit par ces dénominations-là que la matière n'intervient pas, en fait, dans le son. Et donc là, du coup, ça paraît moins surprenant qu'on puisse prendre n'importe quel objet, n'importe quel matériau. Là, on a une flûte donc en gaine électrique. C'est un bout de canalisation diamètre 32, donc vraiment de la plomberie d'évacuation, avec un morceau de tringle à rideau, une encoche avec un biseau taillé à la lime, et puis un autre morceau de plastique qui revient se glisser par-dessus pour créer le conduit d'air. Donc ça se met dans la bouche comme une flûte à bec. Donc il suffit de souffler dedans pour le faire sonner. Et c'est l'avantage de travailler avec du PVC plutôt qu'avec des matériaux naturels. Parce que la même chose en bambou, j'aurais beaucoup plus de mal à faire une boucle avec. Après, j'en ai fait d'autres qui sont un peu plus folkloriques, quoi, où il y a des formes un peu moins logiques. Alors, par contre, il va falloir que je revienne. Je n'ai pas mes ustensiles. Presque un peu le même rapport qu'avec la voix, c'est-à-dire que ça devient juste un prolongement de notre propre colonne d'air. Donc on est sur notre respiration, sur notre fonctionnement vital de base, et juste on le prolonge par quelque chose qui produit du son. Puis ensuite, bah... Donc là, en fait, on a une flûte un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai laissé beaucoup de gaines. Je choisis ou pas de la laisser sonore, c'est-à-dire que j'ai un trou au niveau du pouce. Et si je le débouche, j'obtiens le son de la gaine. Je peux le montrer avec le même genre de flûte, mais en beaucoup plus longue. Pardon. Voilà. Donc là, pareil, juste avec la pression. Contrairement à un flûtiste classique qui sait exactement son doigté, sa pression et qui va faire la note qui est sur la partition, moi quand je vais envoyer une impulsion, je sais pas forcément quelle note l'instrument va choisir parce que il me faudrait 20 ans de pratique pour pouvoir cibler exactement la note que je veux. Et en fait, ça m'intéresse pas plus que ça. Après, on va avoir les flûtes type flûte traversière. Est-ce que j'en ai ? Aïe. J'en ai défini. Et on va avoir une autre famille d'instruments encore. C'est les flûtes obliques. Alors là, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut caler le bord de la flûte, donc toujours la même, entre les incisives, créer un chemin d'air avec la langue à l'intérieur et utiliser le voile du palais et les dents pour renvoyer l'air à l'intérieur de la flûte. Donc ça donne une position assez étrange et un son que je maîtrise pas très bien, mais... Donc voilà, tout ça avec toujours en fait le même tuyau. Et après, même à l'intérieur de la flûte à bec, à l'intérieur de la flûte traversière, à l'intérieur de la flûte oblique, on peut encore changer plein de choses avec la forme de la tête, avec le rapport longueur par largeur, avec ça donne des choses vraiment infinies. Et puis l'avantage de travailler toujours avec le même matériau, avec le même genre de tuyau, c'est que c'est assez facile d'échanger, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit que je coupe, que je change la tête de l'un pour le mettre sur l'autre, pour... Voilà, on est sur une position vraiment de démiurge, quoi, où il suffit pour créer un monstre, de couper un bout de l'un, de mettre sur l'autre, et on est assez proche des jeux de construction, en fait, c'est juste des Legos pour musiciens, quoi. Voilà, souvent dans les instruments que je fabrique, comme il y en a beaucoup, ça part d'une idée, et puis, voilà, au détour d'un projet ou d'une création, 3 ans plus tard, on va me dire, voilà, c'est celui-là dont j'ai besoin. Il y a des instruments au mur, au plafond, des cordes, des vents, des tuyaux, donc je sais plus. Je crois que j'avais fait des comptes à un moment, il y avait un peu plus d'un millier de cordes tendues dans la pièce, il y avait plus d'un kilomètre de tuyauterie. Voilà, donc si on tourne un peu la tête, il y a la contrebasse en valise en plastique, il y a la percussion en roue de vélo avec résonateur en boîte de conserve de confit de canard, la batterie en bonbonne d'eau avec des plats à poisson en inox et des bouteilles de shampoing à presser, tout un tas de trucs. Et donc voilà, toutes ces choses-là, moi, me passionnent vraiment. Voilà, après, sur les percussions, on a les idiophones, on a les corps résonnants, c'est des choses toutes simples, après, qu'on peut vérifier assez facilement, c'est-à-dire comment... Comment faire sonner un objet façon percussion. Il y a plein d'objets, voilà, qui sont... Ça, c'est une baffle d'enceinte, mais qui, du coup, va pouvoir résonner. On va pouvoir... En fonction de comment on la tient, comment on tient tous ces objets, on va avoir des choses. Voilà, par exemple, on a des espèces de couvercles de gâteau. Il y a aussi la vibration du métal, aussi, qui n'est pas audible, par exemple. J'adore. Ça, c'est un ressort qui vient d'un enrouleur de store. Et donc, je l'ai trouvé sur un trottoir. Et donc, ce truc-là, si on rapproche l'oreille, il y a plein de sons là que vous n'entendez pas. Vous entendez que les aigus. Mais il y a tout un tas de résonances qui passent. Et le fait de le suspendre par une petite corde à un résonateur, on va les récupérer. Donc là, on est sur un objet...
Non, ce qui m'impressionne aussi, c'est que l'air est affectée par la présence de la matière. C'est-à-dire que un ressort qui bat, ça affecte tout l'air autour, se met aussi à palpiter d'une certaine manière, et nous gagne à notre tour. Ça veut dire que l'air est en permanence affecté par notre présence et par notre vitesse, par nos gestes, par nos mouvements, oui. Et ce n'est pas du tout un terrain neutre. L'air vibre, une personne fait vibrer l'air, plus ou moins d'ailleurs, et cette vibration nous touche à notre tour. Enfin, l'air est, on peut dire, est d'une sensibilité extrême, puisqu'il il perçoit le moindre mouvement et le répercute jusqu'aux endroits sensibles à cela, quoi. On peut développer un peu cette capacité comme ça d'observation de la palpitation de l'air et de la vibration de l'air, quoi. Je pense qu'il est un messager, quoi, une forme de messager. Tout passe par l'air, la vision, les photons, l'émotion, la distance qui nous sépare d'un être cher, c'est de l'air, d'abord de l'air.
Ça va dans quel sens ? Ça monte. Ça monte vers le bas ? Ou ça tombe vers le haut ? Ça remonte ? Ça bat comme un cœur. Ami ou ennemi ? La vibration sonore d'un enrouleur de store. Ici, la pulsation silencieuse d'un ressort en fonte. Cet espace fugace, ce contrepoids entre le grave et l'aigu, entre le grave et le léger, est le royaume imaginaire d'un poète de l'air. Amoureux des hauteurs, obsessionnel de la chute, Pierre Meunier travaille depuis plus de 20 ans sur l'air et ses lois physiques, la gravité, la pesanteur, avec un idéal, atteindre la pesanteur, s'affranchir enfin de la lourdeur de la condition humaine pour atteindre une certaine légèreté. Pour lui, l'air, comme l'art, est une matière à rêverie, une promesse d'envol, le lieu de la consolation salutaire, inespérée.
Ça a à voir avec une compréhension de la vie, enfin de notre destin, enfin de notre état, d'être soumis à ces lois et devant faire avec, et comment la pensée fait avec ça, quoi. C'est une question qui n'a pas de fin de toute façon, et que justement le mouvement d'un ressort, pour moi, anime, réanime, réveille, restimule, provoque. Et c'est cette vertu-là pour moi. Qui me rend amoureux du ressort, parce que il devient très précieux comme agent dérangeant, agent stimulant, parce qu'il nous dit tout, quoi. Ce mouvement nous dit tout, en effet, du début, de la fin, des forces qui s'épuisent jusqu'à l'arrêt final. Enfin, tout est là, quoi. Tout est là, et donc en fréquentant ce tout là peut-être qu'on peut faire avec plus facilement, avec cette dimension de la fin, finalement. C'est faire avec, l'accepter, et puis danser avec, quoi. Au fond, quoi faire d'autre ? L'air, pour moi, c'est l'endroit du possible déploiement du corps et de la pensée. Et d'ailleurs, Nijinsky disait il n'y a qu'à monter en l'air et y rester un peu de temps. Bon, lui, il savait le faire peut-être bien mieux que nous tous, mais néanmoins, il retombait, quoi. Il finissait par retomber, Nijinsky aussi, quoi. De toute façon, je trouve que la Terre est ensorcelée, quoi, d'une certaine manière. Hein, c'est un sort pour empêcher ses habitants de fuir, quoi, vers le ciel et de gagner les hauteurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi, auquel on, de toute façon, on n'échappe pas.
Dans mon livre « L'air et les songes », j'ai étudié longuement le rêve de vol. C'est un rêve très positif, mais très simple. Dans nos nuits heureuses, nous avons parfois l'impression que nous pouvons voler. Le plus souvent, le rêve de vol est un vol sans ailes, un vol sans mécanisme ailé, un vol qui n'a pas besoin, par conséquent, d'imiter l'oiseau, c'est-à-dire de copier la réalité. Nous sommes devenus si aériens, l'élément de l'air a imprégné si profondément notre être qu'un léger coup de talon contre le sol suffit à nous détacher de la terre. Nous nous mettons alors à planer, le plus souvent proche du sol. Si nous retouchons la terre, un nouveau coup de talon nous faire repartir pour un voyage facile.
Ah oui, alors moi, oui, j'ai eu cette chance inouïe. Oui. J'ai volé dans cet Airbus du CNES là, qui fait des galipettes dans le ciel. Et à chaque parabole, nous offre 20 secondes d'apesanteur. Ouais. Oui, j'ai été invité à... en résidence en apesanteur, comme c'était intitulé, au milieu de chercheurs et de laboratoires du monde entier qui faisaient moultes expériences diverses dans ces 20 secondes d'apesanteur répétées 30 fois lors d'un vol, lors d'une sortie, quoi. Des paraboles qui montent, qui se cabrent, hop, et qui coupent ses moteurs et qui tombent en piqué en chute libre, et moi je tombe évidemment avec dans l'avion. C'est-à-dire que l'avion et moi, on tombe en même temps, à la même vitesse. Ce qui fait que le sol ne cesse de se dérober. Je tombe, mais le sol, qui normalement s'oppose à ma chute et fermement, là, ne cesse de tomber à la même vitesse que moi. Donc, d'où cette sensation de ne plus peser. Complètement flottant et complètement débarrassé de toute tension musculaire, puisqu'il n'y a plus de viande à soulever. La viande ne pèse plus rien. On devient aérien, on devient une substance aérienne à son tour. Et on flotte et on peut, une simple poussée d'un doigt peut nous envoyer très très loin, quoi. Alors que je tombe, je ne suis jamais autant tombé finalement. C'est aussi très très paradoxal. C'est donc finalement la soumission la plus extrême à la pesanteur qui me donne la sensation la plus forte de légèreté, quoi. Ça rend un peu dingue, hein. Pour la raison, l'esprit, je veux dire que dans ces moments-là, l'esprit, la raison ne sait plus où elle est, quoi. Tous mes repères. Ah oui, mais c'est un affolement jouissif, mais réel, hein. Un affolement des sens, un affolement de tous les repères, aussi du corps, des réflexes, tous les réflexes antigravitaires qui nous permettent de nous tenir debout, tout ça est pulvérisé, quoi. Donc c'est un vrai choc, mais un choc heureux, incroyable. Tout le monde devrait y avoir droit. C'est comme le manteau de plomb qui depuis ma naissance me recouvre, en un éclair se déchire, quoi. Donc du coup, me donnant la sensation de ce manteau de plomb, qu'on oublie tous évidemment, parce que on l'oublie, c'est normal, et heureusement. Mais là, tout à coup, il redevient conscient du fait de sa disparition, de la sensation de sa disparition. Et surtout, quand il revient, une fois que l'avion se rétablit Et là, vous passez de 0G à 2G, à deux fois votre poids en 3 secondes. Et là, ça vous retombe dessus, mais avec une force. C'est un vrai châtiment, quoi. C'est une punition. C'est une manière de payer. De payer, quoi. De payer cet affront à la pesanteur, on peut dire. Donc, tout, on peut dire que tout instant de légèreté se paye cash, quoi. Et au prix fort. Mais ça vaut le coup. Largement. C'est énorme, le fait d'être débarrassé de la menace de la chute. Je sais pas si c'est inimaginable. Mais c'est sans doute pour ça que ça peut pas durer non plus plus longtemps que ça, quoi. Mais c'est ça donnait vraiment l'impression d'outrepasser. Ça donne l'impression d'outrepasser notre condition, quoi. Vraiment, c'est-à-dire d'avoir fait une brèche dans mon destin d'homme tombant, d'homme lourd.
Je suis assis là, respirant le meilleur air, l'air du paradis. En vérité, l'air clair, léger et rayé d'or, aussi bon qu'il en soit jamais tombé de la lune.
L'air, enjeu et imaginaire. Avec Marc Delmotte, Pierre-Emmanuel Berg, Nicolas Bras, Pierre Meunier. Merci à Vida Konikovic et l'équipe de l'Exploradôme à Vitry-sur-Seine, ainsi qu'à Claudine Baucher et l'équipe de la Belle Meunière à Hérisson-sur-l'Allier. Documentation Maria Contreras. Archives INA, Nathalie Durand. Lecture par Stéphanie Sfiras et Benoît Nguyen Tat. Extrait de Mauvais temps, Frédéric Ferrer, édition L'Archange Minotaure, 2008. Dôme, Stephen King, édition Albin Michel, 2011, dans une traduction de William Olivier Desmond. Nietzsche, aphorisme cité par Gaston Bachelard dans L'air et les songes, édition José Corti, 1943. Coordination, Irène Omelianenko. Attachée de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Prise de son, Romain Luquiens. Mixage, Valérie Lavalard. Un documentaire d'Estelle Gap et d'Ifi Mariani pour Sur les Docs.
Nous avons tout appris ensemble. Ensemble, nous avons appris à nous élever au-dessus de nous, vers nous-mêmes, et à voir des sourires sans nuages.
Pour écouter ce documentaire, c'est comme chaque jour sur franceculture.fr à la page de Sur les Docs. Tout de suite, il est presque 17h55 sur France Culture, les carnets de l'économie, Dominique Rousset.
Les carnets de l'économie reçoivent cette semaine Frédéric Gilly, économiste et géographe, chercheur associé et enseignant au Centre d'études européennes de Sciences Po. Il est également directeur d'une agence, c'est important dans la discussion que nous allons avoir, et fondateur de Métro Politique. Frédéric Gilly, on va parler avec vous, on va parler des élections régionales à venir. 13 régions pour quelle économie? Et commençons par les chiffres. De 22 régions à 13, quel est l'avantage? Quels sont les effets de taille de développement que vous voyez apparaître?
La réforme institutionnelle qui a été engagée avec le changement du nombre de régions, elle avait été annoncée par le Premier ministre quand il l'avait engagée en disant « la réforme territoriale, c'est la mère des réformes ». Pour un économiste, ça parle ce genre d'argument puisque ça renvoie à tout un courant en économie qui est le courant institutionnaliste qui considère que les cadres dans lesquels les actions sont décidées sont fondamentaux pour penser et comprendre les actions qui sont engagées par les entreprises ou les ménages. Le seul problème qu'on pourrait voir à ce qui a été engagé, c'est que ça n'approche l'institution que sous son pur angle administratif, alors que quand on aborde la question des institutions, il y a aussi toutes les coutumes, les habitudes, les pratiques que les gens développent au quotidien, les entreprises, leurs interlocuteurs, le contexte dans lequel elles évoluent. Et évidemment, quand on divise quasiment par deux le nombre de régions, quand on fusionne des services, quand on change des capitales, ça modifie tous les repères informels dans lesquels les entreprises ou les acteurs évoluent. Et donc, on sait qu'il va y avoir des coûts administratifs, la fusion, la réorganisation. On sait aussi qu'il va y avoir des coûts importants, indirects, de cette transformation, qui seront liés au fait que tous les acteurs vont devoir repenser le cadre dans lequel ils reformuler, se reconfigurer les représentations de leur milieu.
Oui, mais ça veut dire qu'il va falloir attendre un petit peu, quoi. Ça veut dire une période d'adaptation, ou bien vous pensez que c'est plus grave que ça?
Non, une période d'adaptation, oui, une période d'adaptation.
Qui peut coûter un peu d'argent.
Qui peut coûter un peu d'argent, et puis il y a sans doute des gens qui seront perdus entre-temps. Mais ça veut dire que si on prend ce risque-là, ça veut dire quand même qu'on attend des gains. Et si on se pose la question en économiste, je dirais qu'il y a deux façons d'approcher la question. Il y a des gains un peu macroéconomique. Enfin, dans une logique macroéconomique, la question c'est est-ce que avoir des régions d'une plus grande taille, ça a un effet? Alors ça, on n'a pas de calcul précis à l'échelle de région. On sait qu'à l'échelle des pays, il n'y a pas d'effet taille qui joue. Donc, qu'on soit un très grand pays ou un petit pays, il n'y a pas d'effet de la taille sur le taux de chômage, sur le taux de croissance, sur l'emploi.
Idem pour une grande région, une petite région. Je crois que l'exemple allemand est assez probant. Il y a des petits Länder.
Il y a des petits Länder qui fonctionnent très très bien. Après, grands qui vont pas si bien. Il y a une logique marketing sans doute derrière aussi. C'est-à-dire que plus on est grand, plus on peut exister. Après, il y a une logique plus microéconomique, qui analyse la région non pas comme un territoire, mais comme un prestataire de services publics. De ce point de vue-là, c'est un des arguments qui sont mobilisés par le gouvernement, c'est de dire on va réorganiser notre fourniture de services publics pour l'adapter à de nouvelles échelles, à de nouvelles façons de fonctionner des territoires. Donc on a des logiques de rationalisation et des logiques de simplification. On rationalise, c'est-à-dire que on va, de la même manière que on n'a pas des hypermarchés dans des petits villages, on va pas avoir des hôpitaux dans de petits villages non plus. Donc cette carte-là, il faut qu'on la pense, il faut qu'on l'organise. Et il y a des offres de services qui ne peuvent être pensées qu'à de très très grandes échelles. Donc pour ça, de grandes régions, ça peut être une solution. Le problème, c'est que ces grandes régions, elles éloignent la décision du citoyen. Et donc derrière, on a un vrai enjeu démocratique au-delà de l'enjeu économique.
Frédéric Gilly, économiste et géographe, est notre invité au Carnet de l'économie. Cette semaine, venez nous retrouver sur le site. Vous trouverez notamment la liste de ses travaux, divers articles. On se retrouve demain, Frédéric Gilly.